Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Evelyne Ferron, bonjour.
Gabriel Caron, bonjour.
Hey, avant les salutations habituelles, fallait que je plug Eros et compagnie qui est le commanditaire de cet épisode. Et d'ailleurs, si vous utilisez Histoire 15 sur leur site internet quand vous passez une commande, ben vous aurez un magnifique rabais sur vos achats. Bon, Evelyne, allô?
Oui, allô?
Hey Evelyne, je suis super contente de notre sujet d'aujourd'hui parce que...
Très en demande d'ailleurs.
Très en demande, mais en toute honnêteté, c'est un sujet que je ne connais pas du tout ou si peu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Haïti et aussi d'un personnage très marquant, Toussaint Louverture.
Ça, je sais que c'est... Vous avez même un parc à son nom dans Ville-Marie.
Oh, mais tu vois, moi, lui, tout ce que je sais de lui, c'est que ça a été un personnage très controversé.
Oui, et comment l'histoire l'a traité ou l'a abordé, on n'a pas toujours le même portrait de ce personnage-là non plus. Controversé, ça dépend de quel côté tu te situes. C'est sûr qu'il y a souvent, là on parle vraiment plus dans le monde des historiens, Haïti aussi c'est sûr, il y a toute la question de, c'est comme si c'était le seul héros de l'histoire haïtienne, il y a beaucoup d'autres personnes en fait qui ont participé aux événements auxquels il est associé, qui quand même mené Haïti vers son indépendance, premier pays en fait... où des esclaves noirs vont reprendre le contrôle de leur territoire. Mais il en est devenu, on dirait, le seul emblème, alors qu'il aurait pu y avoir beaucoup d'autres personnes qui auraient pu y passer aussi. Fait que souvent, c'est un peu ça, mais c'est vrai pour tant de choses dans l'histoire. On dirait, on veut porter une personne en disant, OK, ça va devenir le symbole, puis fuck les autres, puis voilà.
Ah, voilà! C'est très bien résumé! Mais écoute, avant même de se plonger là, dans l'histoire d'Haïti, j'ai vraiment envie de revenir à la base. Haïti, avant que les Européens le découvrent, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? J'imagine que ça existait avant que les Européens sachent que ça existe.
Oui, on est dans Antilles, Caraïbes, où tu as plein de populations autochtones qui sont là depuis très longtemps. Je dis des bons climats. Hein. On s'entend qu'une fois qu'ils arrivent là, il y a généralement, la végétation est abondante, l'agriculture est facile. On peut cultiver un peu comme à Cuba et ailleurs. Je veux dire, le manioc, différents légumes. Donc, l'agriculture est facile, le climat est doux, agréable, tu sais, t'as pas d'hiver. Bon, t'as la proximité de la mer, les brises marines qu'on n'a pas ces temps-ci. pour rafraîchir certains Québécois. ce qui fait qu'il y a plein de populations comme ça qui vont arriver sur ces îles-là. Le défaut, pour nous, pour bien les comprendre, c'est que ces populations-là n'écrivent pas, comme les Autochtones d'Amérique du Nord, comme si on compare, mettons, à des populations comme les Aztèques et les Incas, qui, bon, sans toujours laisser des textes écrits pour les Incas, laissent beaucoup de traces visuelles qu'on comprenne un peu mieux leur histoire. C'est sûr que là, on est dans un... On relève beaucoup de l'archéologie, de l'ethnologie aussi, ethnologie, anthropologie, pour essayer de retracer tout ça. L'autre drame dont on reparlera, c'est que les populations d'origine ne sont plus là. C'est des populations qui ont été exterminées par les maladies, par les mauvais traitements, qui ont été remplacées par des esclaves africains. Donc, encore une fois, des traces de ces gens-là, même au niveau de la langue, contrairement, tu sais, encore une fois, les descendants des Incas parlent encore le Quechua présentement. Tu sais, il y en a qui parlent encore des dérivés de la langue maya en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Il y a plusieurs langues comme ça, des anciennes populations autochtones qui ont survécu, mais là, tu n'as rien de ça à Haïti. Fait que, ça devient plus compliqué. Donc, tu es dans on parle en fait de populations autochtones qu'on va appeler les Arawak. C'est sûr que c'est un terme qu'on connaît via les Espagnols qui, quand ils vont arriver, vont nous transmettre ces termes-là. Les Arawak et ce qu'on appelle les Caraïbes, ça vient de là. Alors, l'idée des Caraïbes, c'est que c'est un autre peuple qui cohabite en fait ce qui est aujourd'hui Haïti, mais aussi la République dominicaine. T'sais, on s'entend, on est...
C'est la même île.
C'est la même île qui habite ce secteur-là, mais ils sont aussi liés... par la langue et très probablement au fil du temps par l'immigration aux Taïnos de Cuba, qui des fois sont des fois un peu mieux documentés, étonnamment, là, mais tu sais, qui nous ont légué des mots comme « barbecue
». Eh ben!
Oui, parce que...
Je m'attendais pas à ça!
mais des fois, ils pensent pas, mais dans notre langue, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent de ces populations-là, parce que quand les Espagnols sont arrivés à Cuba, puis qu'ils vont découvrir leur façon, justement, de cuire la viande dehors, tu sais, sur des braises, avec des, tu sais, dans le fond, du bois mouillé au-dessus pour pouvoir faire cuire la viande, les Taínos disaient barbacoa, et ben, ça, ils ont repris le mot en espagnol, puis ça s'est répandu dans à peu près toutes les langues européennes par la suite, donc on a gardé barbecue en l'honneur des Taínos, entre autres de Cuba.
Ben, la prochaine fois que vous vous faites griller des petits hot dogs là, sur le barbecue, vous penserez à Evelyne et à Haïti.
Barbacoa, en fait, Cuba ici.
À Cuba.
Du point de vue linguistique, c'est quand même des familles de langues. Là. Les Taínos parlaient une langue qu'on disait langue des familles des Arawaks, là, un petit peu. Donc, à Haïti, c'est sûr que sur le secteur de ce qu'est Haïti aujourd'hui, il y avait quand même des conflits, donc, entre deux grands peuples autochtones, les Arawaks, les Caraïbes, qui ont fini par avoir comme un peu chacun leur partie de l'île. C'est un peu la même chose là, avec ce qui est aujourd'hui la République dominicaine. Puis, je veux dire, c'est des populations qui semblent quand même pas très guerrières, qui ont un mode de vie très relax, tu sais, qui sont très... j'ai envie de dire mode de vie un peu... pensez mode créole, tu sais, la vie est quand même assez douce. Tu sais, on vit relax. Il fait chaud des fois, fait qu'on y va en douceur. Et c'est un peu ce qui va être remarqué par les Espagnols lorsqu'ils vont arriver, c'est cette douceur-là, cette gentillesse-là, l'absence de malice ou de même de réflexion politique avancée, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et ben voilà, leur histoire se termine de manière quand même assez brutale avec l'arrivée des Espagnol. Donc, Haïti, qui va redevenir le nom plus tard de cette île, ça voulait dire les terres des montagnes hautes, parce qu'il y a quand même des montagnes, là, on s'entend. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de catastrophes naturelles quand il y a des ouragans ou il y a des pluies diluviennes, c'est que, tu sais, ça a tellement... les arbres, des forêts, tout a tellement été... abattu, clairsemé pour les plantations à l'époque coloniale, qu'ils ont vraiment nui à l'écosystème. Puis aujourd'hui, il n'y a pas de barrage, en fait, contre les coulées de boue des montagnes et tout ça. Ça fait partie des problèmes, d'ailleurs, constants d'Haïti. Mais ça va arriver de là, ces problèmes.
Mais là, tu dis quand c'est les Espagnols qui sont arrivés en premier, mais mettons, avant qu'ils arrivent, c'était des tribus, c'était
un
royaume.
Oui, tu peux imaginer, en fait, c'est pour les gens qui connaissent les systèmes d'organisation politique, ça nous a été expliqué par les Espagnols aussi, on s'entend. Là, c'est des observateurs qui décrivaient un petit peu le fonctionnement, parce qu'eux ne nous ont pas laissé de sources écrites. Là. Ça, c'est bien important. Ces gens-là, on parle de caciques. Fait qu'il faut imaginer, dans le fond, qu'on a des espèces de territoires et il y a un chef qui gère ce bout de territoire-là, puis ils sont plusieurs chefs comme ça. Fait que le cacique, c'est le nom du territoire, mais ça va être le nom de ce chef de clan ou de tribu. Puis on sait qu'il y a des femmes aussi qui en ont géré, donc pas que des hommes. D'ailleurs, il y en a une qui est un petit peu plus connue. Elle est, ben, connue. Elle est mythique à l'époque des Espagnols, mais elle s'appelle Anacoana, qui, bon, va, de ce qu'on en sait, d'après la légende, va essayer justement de résister à l'asservissement de sa population avec l'arrivée des Espagnols. Puis, tu sais, elle va être finalement arrêtée, puis elle va être pendue, tout simplement. Mais il y a des femmes. On sait qu'il y a des femmes aussi qui gèrent ces espèces de territoires. Et on fonctionne beaucoup, surtout pour Haïti. Ici, c'est beaucoup l'agriculture, là, qui est quand même le mode de subsistance de base. Donc, les caciques, ces territoires-là, sont souvent divisés en parcelles agricoles. Des fois, il y a des échanges entre les différents territoires de certaines ressources. La pêche, pour certains secteurs, est importante. Donc, tu vois un petit peu l'univers. Est-ce qu'ils ont beaucoup de contacts extérieurs? C'est un peu difficile à savoir.
Puis, ils ont vécu combien de temps, mettons, autonomes comme ça?
Ah, ben écoute, on parle d'au moins. Je dis bien au moins, comme je te dis, c'est difficile parce que c'est une question d'archéologie. Et le défaut aussi de ces îles-là, c'est le climat très humide, ce qui fait qu'au-delà de la pierre, des ossements, tout ce qui est sur bois ou autre, ça pourrit très vite. Donc, le matériel archéologique n'est pas si abondant que ça. La poterie va aider un petit peu, par contre. Mais tu sais, on parle facilement de peut-être un peu avant l'an zéro, là, on va dire ça comme ça, au moins, mais même avant ça, il y a des gens qui commencent à bouger dans ces secteurs-là, là, qui peuvent être nomades, semi-nomades, mais vont finir par s'établir sur certaines îles, puis comme la vie est belle, vont y rester. Mais c'est sûr qu'au niveau des datations, ça fluctue beaucoup, là, au gré des recherches. Donc, ça, disons, gardons-nous une grosse fenêtre.
Oui!
Bien peine ouverte sur ce volet-là. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal de monde, en fait, dans les îles. Quand Christophe Colomb arrive en octobre 1492 dans le secteur des Bahamas, il faut juste imaginer que c'est vraiment très habité. Là. Toutes les îles, ou presque le sont, de différentes populations autochtones. Et il ne faut pas oublier que quand Colomb arrive lors de son premier voyage, lui, il est convaincu qu'il a atteint les Indes. Il y a un défaut géographique ici. Là. fait que, ils appellent les Indiens et ils cherchent quelque chose de bien précis, c'est l'or. Parce que bon, c'est la ressource qui permet à un royaume de s'enrichir. On n'oublie pas que Christophe Colomb réussit à se faire financer par l'Espagne, Isabelle de Castille en particulier, qui dit non seulement je veux de l'or, des richesses, mais mon but étant une mystique.
Isabelle la catholique.
Oui, Isabelle la catholique, Isabelle la mystique, Isabelle qui avait des drôles d'orgasmes spirituels, on va appeler ça comme ça. Ouais.
Un orgasme est un orgasme, hein?
Voilà,
on crache pas là-dessus.
On a été capable d'en avoir quelques heures grâce à sa piété, on va dire ça comme ça. Ben là, comme elle, ce qu'elle entend de l'Inde, la vraie Inde, c'est que la religion est terriblement différente. Puis ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une forme d'évangélisation aussi. Fait que ça fait partie des mandats de Christophe Colomb. Premier voyage, arrive là, donc dans les Bahamas et va arriver du côté de Cuba dans un premier temps. Premier et surtout deuxième voyage, ben là, c'est ce qu'il va renommer Hispaniola. Donc, c'est le secteur de Haïti. Donc, Hispaniola, Nouvelle-Espagne.
Mais c'est Christophe Colomb qui, là, j'aime pas dire découvre, là, parce qu'il existait avant que les Européens sachent qu'il existe, là, mais mettons, le premier contact entre Européens et Haïti, c'est Christophe Colomb?
Dans son deuxième voyage, surtout. Et là, dans son deuxième voyage, maintenant qu'il a fait le rapport du premier puis qu'on est très intéressé par le fait qu'il a vu de l'or sur les Taïnos à Cuba et tout ça, tu sais, là, il y a vraiment un intérêt d'exploitation de ce côté-là. Et donc, là, la deuxième, tu sais, la première expédition, tu sais, Christophe Colomb avait trois navires, tu sais, que tu dois connaître par cœur, même si les jeunes dans mes cours ne les savent plus. Mais,
Santa Maria.
Oui.
C'est tout.
La Niña, la Pinta, la Santa Maria. Là, la deuxième expédition, c'est 17 navires. Tu sais, Christophe Colomb, là, on a une volonté coloniale là, qui arrive avec le deuxième voyage. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'il va vraiment débarquer du côté de ce qui est Haïti, qu'il va nommer Hispaniola. Et le but, ben, tu sais, il faut vraiment qu'il... non seulement arrive à les évangéliser, mais ils regardent est-ce qu'il y a de l'or et tout ça, et ils en ont. Il y a de l'or, en fait, sur ce territoire-là. Il y a des mines, les gens en portent sur eux, mais ils n'attribuent pas la même valeur que les Européens. C'est la même chose pour les Incas ou les Mayas, même si ça montrait un peu, des fois, le pouvoir. C'était beaucoup religieux, en fait, l'utilisation de l'or. Chez beaucoup de populations autochtones, entre autres des Antilles et des Amériques en général, alors que pour les Européens, ben, ça a une valeur surtout...
C'est une richesse.
Richesse financière, puissance d'un État, c'est ce qui te permet d'échanger des biens. Tu dirais, hey, moi, j'ai du capital,
power.
Finalement, d'une certaine façon, c'est ça. Ils sont vraiment pris au dépourvu de voir que les Arawaks n'exploitent pas vraiment leur mine d'or, comprennent pas pourquoi les Espagnols veulent ça. Eux autres, ils veulent vivre leur petite vie relax. Ils sont très doux, très gentils, puis ils les voient comme même des êtres un peu supérieurs, tu sais, parce que ça, c'est impressionnant voir débarquer tout ça avec les... Vous irez voir les armures de
les habits,
conquistador.
C'est ça!
Hein, c'est ça, tu sais, ça... Ils arrivent dans des climats très chauds, ils sont tellement pas équipés pour arriver là, dans le fond.
Hey, mais ils devaient tellement se brûler là, avec leur casse, leur armure, puis tout, ça devait venir tellement...
Mais ils apprenaient des populations autochtones, entre autres en Amérique centrale, puis au Pérou, ils vont plus tard apprendre à utiliser plus soit du coton ou des plantes pour se faire des cuirasses qui bloquent les flèches, mais parce que les Autochtones n'ont pas d'armes à feu de toute façon, qui sont beaucoup plus confortables et portables dans des climats où leur armure n'a pas de bon sens.
Mais... Moi, je me dis tout le temps, il y a deux choses qui m'inquiètent énormément pour ceux qui sont allés aux Caraïbes pour la première fois. De un, ils ont dû faire énormément d'insolation parce qu'il n'y avait pas de casquette, là, tu comprends?
Ils s'hydrataient pas. Il y a une palette sur leur casque.
En métal. Une palette en métal. Tu sais, c'est pas ça qui t'aide. Puis ils ne devaient pas s'hydrater énormément. Puis de deux, la crème solaire n'existait pas. Là. Ils ont dû se faire des brûlures. Ils devaient être rouges à mort. Ça devait être épouvantable. Je m'imagine aller à la plage une journée pas préparée, mais c'est comme ça que j'imagine.
Mais ils vont pas à la plage. Par contre, à l'époque, on voit pas les plages comme quelque chose de très positif. C'est tardif, ça. On pourrait en faire
non,
une
mais quand
ils
arrivent, quand il arrive, il arrive quand même sur la plage, là. Tu sais, il arrive pas en plein milieu des terres.
Puis il arrive devant des Autochtones qui, eux autres, sont tout à fait habitués à ces chaleurs-là. Puis tu sais, ils sont peu habillés. Pas parce qu'ils sont pas civilisés. C'est parce qu'ils vivent dans un climat où habille-toi pas trop. Mais déjà, on a cette vision que, ben voyons donc, tu sais, ils s'habillent pas. Ils ont l'air de vénérer différentes divinités. C'est un peu étrange. Ils ont pas l'air évoluer parce qu'ils pensent pas comme nous puis ils vivent pas comme nous, mais tu sais, on réalise pas que ce climat-là, ce mode de vie-là est très différent. C'est le mode de vie qu'on recherche finalement aujourd'hui quand on va là. Le mode plus relaxant et tout ça. C'est sûr qu'il y a une incompréhension totale, en fait, entre les deux univers. Puis les Arawaks, ils comprennent pas. Les Arawaks comprennent pas qu'ils vont... Les Européens sont là pour les conquérir, puis qu'ils vont vraiment les utiliser aussi, là. Et là, c'est ça qui se passe. C'est que là, Christophe Colomb réalise à Hispaniola, il y a de l'or. Alors, moi, il faut que je justifie pourquoi j'ai 17 navires. Il faut que je rapporte ça en Europe. C'est terriblement important. Et c'est là que la catastrophe survient, parce qu'on va asservir ces populations-là. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une chef cacique, c'est, qui va essayer de résister à ça. Ils vont cultiver les terres. On va essayer de commencer le développement de la canne à sucre, parce que c'est un bon climat pour la canne à sucre. On découvre le sucre en Europe un peu. On veut faire de l'argent avec ça. Fait qu'on abat des arbres, on créer des plantations, on va éventuellement y amener cultiver l'indigo aussi, qui va donner la couleur indigo, ça vient d'une plante, mais c'est sûr que l'objectif premier, c'est l'or. Alors, on veut pas, les Espagnols, le peu d'Espagnols qu'il y a là, veulent pas travailler dans les mines, fait que c'est les Arawaks qui vont le faire dans des conditions épouvantables.
Oui.
Ils sont pas habitués de travailler tant que ça, ils sont pas habitués d'exploiter des ressources, eux vivent de ce qu'ils ont, mais tu sais, jamais à l'extrême, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ne sont pas dans cette mentalité pré-capitaliste, on pourrait dire, là, de cultiver ou d'exploiter des choses pour le profit. Le but, c'est juste de bien vivre. Puis c'est vraiment différent en termes de mentalité. Et je veux dire, ils ne sont pas culturellement faits pour affronter des Espagnols qui sont impérialistes, qui sont belliqueux, en fait, qui sont là, puis ils vont les écraser, puis eux autres sont comme « Hein? Quoi? » Puis, tu sais, c'est pas très long, en fait, ce qui se passe. Et donc, ils sont asservis, ça devient des esclaves, puis s'ils refusent de travailler ou qu'ils fuient, on leur envoie des chiens après eux qui vont les attaquer ou même les tuer. On fonctionne dans un régime de peur avec les Arawaks. Et à un moment donné, il y a d'autres Espagnols qui vont arriver à Hispaniola, puis qui vont voir ce que Christophe Colomb fait là, puis qu'ils vont faire « Wow, OK, c'est peut-être un petit peu violent. » Donc déjà, il y a une réaction à ça. Et ce qu'on dit pas souvent dans l'espèce de mythe glorieux de Christophe Colomb, c'est qu'Isabelle de Castille va recevoir une lettre disant « Écoutez, ce qu'on fait subir, en fait, aux populations, on va dire indigènes à l'époque, là, mais nous, on va dire autochtones, c'est quand même assez violent. » Et là, elle réagit très mal, parce qu'elle dit « J'avais dit évangélisation, mais j'ai jamais dit d'asservir les gens. Je les considère comme mes sujets. Je suis leur reine. » Et ce sont mes sujets, et je veux dire, on n'asservit pas des populations comme ça spontanément. Christophe Colomb a été retourné enchaîné de son deuxième voyage dans une cale de bateau, et ça, c'est pas dit souvent, et pourtant, c'est terriblement important dans son histoire. Et là, mesdames et messieurs, Gabrielle a la bouche grande ouverte, les yeux très, très grands.
Mais je savais pas, je l'apprends à l'instant, j'étais pas au courant de ça, parce que, effectivement, quand on entend parler dans tes différents cours d'histoire, c'est lui qui a fait des découvertes, celui qui a permis de s'ouvrir sur le monde, qui a fait les premiers contacts, mais je savais même pas qu'il était si brutal que ça. Moi, je pensais que c'était l'autre Espagnol qui est allé plus dans le sud, là. C'est quoi son nom à lui?
Tu penses à Francisco Pizarro et les Incas, là? Ou,
oui! OK! C'est ça! Celui-là qui a été le gros... il était peut-être pas gros, là, mais le grand conquistador, là, qui a vraiment enrayé les populations d'Amérique latine. Mais je pensais pas que ça avait été si violent dans les Caraïbes.
Et ça a été fait avant, bien avant Cortés et Pizarro, là. On est à la fin du 15e siècle, on n'est pas au 16e du tout, là. Mais c'est ça, dans cette espèce de mythologie des Européens qui vont découvrir les Amériques, c'est un bout de l'histoire qu'on mentionne. N'est pas. Fait aujourd'hui, maintenant, Christophe Colomb, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire dans les cours d'histoire pour changer ce discours-là. Parce que tu sais qu'aux États-Unis, on célèbre le Columbus Day. Il y a beaucoup d'États maintenant qui célèbrent la journée des peuples autochtones. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des réactions en disant écoutez, arrêtez de célébrer un homme qui a tué les Arawaks, parce que c'est ce qui va se produire. C'est sûr que ça se fait sur le long terme. Christophe Colomb n'est plus là. Mais reste que le début des développements des plantations avec des colons espagnols à leur tête et la population autochtone qui travaille pour eux dans des conditions d'asservissement. Alors, on ne se le cache pas. Même si Isabelle Lecastier disait à Christophe Colomb, toi, tu t'en viens ici puis tu vas être jugé. Il finit par être pas tant acquitté, mais il se fait royalement taper sur les doigts puis il fait un dernier voyage. Mais tu sais, il a perdu beaucoup de sa superbe, Christophe Colomb, à partir de ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle tout le temps du premier puis du deuxième. Peu du droit, c'est que Christophe Colomb finit pas nécessairement sa carrière avec un aura si grandiose que ça. Parce que, il y a ce problème-là qui vient entacher sa réputation. Il a été violent, agressif, puis il a presque décimé une population qui va finir par mourir de toute façon. Puis il envoie des chiens contre des gens qui essaient de se sauver sur leur propre territoire. T'sais, il y avait déjà une réaction à ça quand même en Europe. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce traitement-là, malgré une mentalité civilisatrice où on considère qu'on est plus avancé que des populations comme ça, parce que nous, on a des villes, nous, on a ci, nous, on a ça. C'est pas tout le monde qui est d'accord pour les mauvais traitements humains. T'sais, la mentalité judéo-chrétienne, elle est contre la violence, d'une certaine façon. Là, les gens veulent pas voir d'autres personnes souffrir au nom du pouvoir, nécessairement. Fait que, t'sais, faut nuancer aussi cette vision de tous les Européens pensent que c'est une bonne chose et tout ça, c'est pas vrai. Mais au nom de l'argent, au nom de la puissance d'un État, quand il y a de l'or quelque part, disons que ton éthique tombe. Là. T'sais, tu vas justifier la conquête d'un territoire.
J'imagine aussi qu'un coup qu'Isabelle de Castille a été avertie, qu'elle a ramené Christophe Colomb et tout, mais c'est comme trop peu, trop tard, j'imagine, là, tout
voilà.
Est déjà placé.
La plupart des Arawaks sont déjà en train de mourir, sont déjà asservis, sont déstabilisés. Et quand on réalise la quantité d'or aussi qu'il y a, Christophe Colomb fait ce rapport-là, ben ça change un peu la donne, malheureusement. Et là, il y a plus de colons espagnols qui vont s'établir puis qui vont être des maîtres pas toujours très agréables non plus. Mais il faut dire qu'ils apportent des maladies, ça c'est classique, auxquelles les Arawaks qui sont isolés sur une île et ont très peu de contact extérieur ne sont vraiment pas habitués, donc ça les achève. Il y a un moine dominicain qui va beaucoup écrire sur le mauvais traitement en fait des populations autochtones aux mains des Espagnols, il s'appelle Bartolomeo de las Casas, qui va dire, ben tu sais, on a exterminé littéralement la population en quelques décennies, là, c'est ça qui est arrivé, là. Au par les maladies, les mauvais traitements, il n'y a plus d'Arawaks. Mais là, les colons espagnols qui s'établissent maintenant sur Hispaniola n'ont plus de main-d'œuvre, le monde meurt. Alors là, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu dans ce contexte-là, puis c'est ce qui arrive ailleurs, là, tu sais, dans les Antilles, c'est pas juste Hispaniola, là, c'est partout.
Mais moi, j'allais dire, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. Mais c'est peut-être ma mentalité à moi, là, qui est trop avant-gardiste et tout, parce que je me doute que les colons espagnols vont pas faire, ben, retroussons-nous les manches et allons à la mine.
Ben non, allons à la mine ou travaillons nous-mêmes dans la canne à sucre. Nous, on est là pour gérer le profit puis le commerce qui se met en place. C'est le début du mercantilisme. On comprend que c'est le début du fameux commerce triangulaire qui est le prélude à ce qui va devenir le capitalisme. On est littéralement là-dedans. C'est le début de la mondialisation aussi. Ces produits-là vont voyager partout, là. Et donc, il y a beaucoup de choses en jeu. Et ben voilà, donc les Portugais vivent un peu la même situation. Eux autres aussi, là, ont commencé à faire des conquêtes dans les Antilles. Les Français s'en viennent, puis ben ils vivent toutes la même situation. Il y a pas assez d'Autochtones travailler sur ces terres-là. Deux, ils meurent ou ils sont tellement affaiblis par la maladie qu'on peut rien faire. Et c'est comme ça que les Portugais, qui ont déjà depuis un certain temps des contacts avec plusieurs royaumes africains, vont dire on vous donne des armes à feu pour que vous puissiez gagner vos guerres. Mais en échange, on veut vous prisonnier. Et c'est comme ça que, volontairement, au début, les royaumes africains en guerre pour les armes à feu gagner leur conflit cèdent leurs prisonniers qui, eux, sont envoyés à Hispaniola, qui va redevenir Haïti, ce que va être la République dominicaine, Cuba. Tu sais, on en envoie vraiment partout. Mais attention à ce petit détail, c'est vraiment pas les premiers à l'avoir fait. Nous, on a tendance, encore une fois, dans notre vision occidentale, à se dire « Ah, c'est à partir des Portugais qu'on va réduire les Africains à l'esclavage.
» Mais il y en avait déjà, me semble, en Arabie, ben, je vais dire Arabie, mais l'Empire ottoman, même en Asie, si je me trompe pas aussi.
Oui, mais pas les esclaves africains en Asie, l'esclavage
existait. Non, pas africains, mais d'autres nations qui deviennent esclaves au fil des guerres et tout. Donc, l'esclavage...
Mais les califats arabes, la péninsule arabique est pas loin, là, tu sais, des côtes africaines. Puis quand, à partir du 7e siècle, on veut répandre la foi musulmane et qu'on va commencer à faire des conquêtes sur la péninsule arabique, on va faire des conquêtes en Afrique. Afrique aussi. Ça explique pourquoi dans certains pays sont de confession musulmane, certains pays sont de confession plus catholique, etc., au-delà de leur religion d'origine ou de leur croyance spirituelle d'origine. Et les Arabes, ben là, comme tu l'as dit, ils vont jusqu'en Turquie, ça va devenir l'Empire ottoman, mais tu sais, ils font pas mal de conquêtes, le califat de Bagdad, l'Égypte, tu sais, il va avoir après ça, même en Inde, le sultanat de Delhi, il y a des musulmans qui se rendent jusqu'en Inde, là. Ben donc, comme ils sont habitués à une main-d'œuvre servile, on estime qu'entre le 7e siècle et la fin du 19e siècle, les populations arabes, de par les différents califats et les territoires qu'ils mènent, vont asservir 13 millions d'Africains.
Mais c'est énorme!
Peut-être même 17 millions, on joue dans les chiffres. Fait que ça existait bien avant, cette idée qu'en Afrique, quand on, au gré des guerres, ben nos prisonniers de guerre, on peut les échanger contre des ressources, des richesses ou de l'appui militaire. C'était déjà dans la mentalité de certains royaumes d'Afrique quand les Portugais sont arrivés. Fait que c'est pas un échange forcé au départ. Ça va, un moment donné, ça va devenir grave, mais là...
Mais c'est ça que j'allais dire, parce que le mot-clé, c'est « au départ, c'est consentant ». Au ouais. départ, c'est une entente de commerce comme une autre. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'un moment donné, il n'y aura plus consentement et ça devient complètement des razzias, c'est ça?
Oh oui, ça devient des kidnappings et des choses comme ça. Puis des fois, ben là, il y a des territoires qui vont dire « bon, est-ce qu'on accepte encore ça? On a une dépopulation. Ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Puis il va y avoir beaucoup de résistance. D'ailleurs, je sais que là, il y a un film, je ne l'ai pas encore vu, avec Viola Davis, The Warrior... Attends. Woman King, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais qui fait référence, en fait, à des tribus guerrières de femmes qui vont lutter là, contre les Portugais, dont Mbangue Zinga, qui
une grande souveraine.
Oui, qui va maintenir l'esclavage, mais qui va mettre ses points sur les règles, en fait, pour le commerce d'esclaves. Elle n'empêchera pas les routes de la traite négrière de passer sur ces territoires, mais elle ne voudra pas que sa population y passe, par contre. Puis c'est en s'entendant que les Portugais qu'elle va empêcher ça, mais il y en a plein d'autres du sud de l'Afrique qui arrivent. Là. Tu sais, c'est très particulier. Donc, Haïti est repeuplé. Dans le fond, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que ce qui va redevenir un jour l'île d'Haïti, après ça, Santo Domingo, c'est la République dominicaine, ben, je veux dire, c'est entièrement repeuplé par des esclaves africains au-delà des maîtres espagnols à leur tête, qui vont à un moment donné être remplacés par des Français, parce qu'à la fin du 17e siècle, c'est la France qui récupère en fait Hispaniola qui va devenir Saint-Domingue. Fait que t'as Santo Domingo, la République
Santo Domingo pis Saint-Domingue de l'autre bord. Come on, la gang, là!
Des fois, je vous jure, si vous dites hey, « c'est mélangeant quand je lis sur ce bout-là de l'histoire », vous avez tout à fait raison. c'est un joyeux bordel linguistique et c'est pas nécessairement évident. On va dire Saint-Domingue, là, ben ce sont les Français qui reprennent les plantations, qui vont amener plus l'indigo parce que c'est plus important pour la France, entre autres les nobles qui disent qu'ils ont le sang bleu. C'est une couleur qui est associée à la majesté et à leur rang, bon, pour les teintures de vêtements. Là, ici, on s'entend que je vulgarise à l'extrême. Là, paniquez pas, c'est votre discipline à l'université. Vous dites, oh mon Dieu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, je sais.
Oui, c'est les grandes lignes, là, juste pour qu'on comprenne bien.
Evelyne n'a pas le temps de... Puis on perdrait du monde aussi qui nous écoute en voiture si on plongeait vraiment dans tous les petits détails de l'exploitation de ces ressources-là, mais on comprend le principe. C'est un principe de plantation où là, maintenant, en fait, il n'y a plus de population locale. On a plein d'esclaves africains qui sont déjà asservis à leur arrivée et qui vont travailler comme main-d'œuvre gratuite. Puis on va établir les grandes plantations, on va continuer à déforester Saint-Domingue qui va devenir Haïti, créant, sans le savoir, les bases des catastrophes naturelles et environnementales que vit Haïti depuis longtemps. Le fait qu'on va abattre autant d'arbres, surtout dans les zones montagneuses, il n'y a pas de barrage en fait aux coulées de boue qui arrivent des montagnes. Il y a vraiment un problème par rapport à ça. Le sol a tellement été exploité aussi, même si les arbres repoussent, il est trop fragile. Il n'y a pas assez de racines pour bloquer tout ça. Donc, ça fait partie d'un des problèmes actuel, en fait, d'Haïti qui émerge de cette époque-là. On se le cachera pas. Donc, ça devient français. Et là, on va avoir des maîtres davantage français à Saint-Domingue.
Mais moi, j'allais dire nouveau maître, même problème, là, dans le sens qu'il n'y a rien qui change.
Nouveau maître, même problème. Ben, pendant un siècle, à peu près 100 ans, exploitation, même que pour la canne à sucre, qu'on va pousser ça au maximum parce que ça commence à devenir vraiment une ressource importante. Et là, arrive quelque chose, ben, plusieurs choses pour la France. Un, la guerre de 7 ans, juste avant, où on se bat. D'ailleurs, on cède le Canada pour garder pas juste Saint-Pierre-Miquelon, mais des îles dans les Antilles, parce que comme la Guadeloupe et tout ça, parce que la canne à sucre, économiquement, est beaucoup plus importante aux yeux des Français que la fourrure de castor au Canada. Là.
Mais Saint-Pierre-Miquelon, j'oublie tout le temps que ça existe. J'oublie... Y a-t-il
Saint-Anne-RFO, ben oui!
Y a-t-il du monde qui habite là?
Puis il parle un français, un mélange de français de France et de l'évolution locale.
Mais j'oublie tout le temps que ces îles-là existent. 100% du temps, j'oublie.
Tu veux découvrir qu'elles existent? RFO! Sur le câble, c'est leur chaîne de télévision. Vous allez comprendre un peu mieux leur univers. Leur... Ils sont là, ils sont juste plus loin que les, nos maritimes, fait qu'on les oublie, mais elles sont toujours là, Saint-Pierre-Miquelon. On veut aussi des îles dans les Antilles. Les Français, dans le fond, c'est ça. C'est pour ça qu'ils cèdent le Canada. Là. Donc, déjà, on a ces problèmes-là qui émergent et on arrive en 1789. En France.
Révolution française.
Et voilà, c'est la Révolution française et les idées des Lumières aussi, des philosophes des Lumières, en lien avec les idées plus démocratiques, le pouvoir au peuple, certaines choses comme ça qui arrivent, vont arriver à Haïti. Parce que là, il faut quand même comprendre que il y a beaucoup d'esclaves africains qui, parce que, Louis XIV, sous son règne, va promulguer ce qu'on appelle le Code noir, qui est un premier code de loi pour régir, réglementer l'esclavage dans les colonies antillaises, plus particulièrement, où, là, à un moment donné, Louis XIV réalisait que le monde l'échappait avec leurs esclaves. Là. Fait que, tu sais, il y a des règles sur si tu oses coucher avec une de tes esclaves puis qu'elle a un enfant, les punitions vont être très sévères. Là. Les punitions sont en sucre aussi, fait qu'on voit que c'est les plantations de sucre qui sont importantes, mais vous pouvez lire le code noir de Louis XIV pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Et dans les normes, il y a la volonté qu'ils doivent être un peu éduqués, les esclaves. Le maître doit s'assurer que les esclaves soient éduqués aussi dans la mentalité chrétienne, ce qui veut dire qu'ils doivent assister à la messe, on doit leur donner des cours de morale, les initier à la Bible. Donc, il y a une forme d'éducation qui est nécessaire. On s'entend que c'est la France ici. Là. Je ne généralise pas aux autres types de colonies et aux autres esclaves. Donc, il y a quand même des fois des esclaves qui sont même beaucoup plus éduqués que d'autres parce qu'ils ont souvent eu des maîtres qui disaient « Ben, toi, t'es intelligent. » Puis il y a des esclaves de maison aussi, pas juste des esclaves sur les plantations. Donc, les idées des Lumières circulent chez les maîtres, mais pour les esclaves qui savent lire et écrire, circulent chez les esclaves aussi. Donc, avant même qu'on parle de Toussaint Louverture, éclate la première rébellion. En 1791.
Donc, en même temps que ça se brasse en France, ça brasse aussi à Haïti, de par ces idées révolutionnaires de « on veut se libérer, on veut reprendre possession de notre avenir et de notre être ».
Exactement. Et donc, tu vois, souvent quand on va parler des rébellions haïtiennes, on va tout de suite parler de Toussaint Louverture, mais quand ça commence, il est là, il habite Haïti, mais... Il n'est pas un personnage qui s'est impliqué tout de suite dans ces rébellions-là. Donc, il y a beaucoup d'autres esclaves, en fait, qui sont derrière les premières rébellions, qui vont dire « Nous, on veut retrouver notre liberté. C'est fini, l'esclavage. Arrêtez ça, l'asservissement. Ça marche pas. Ça commence à créer beaucoup de problèmes pour les Français qui ont déjà plein les bras aussi avec les Espagnols et les Anglais un peu partout. C'est une période quand même assez lourde, je dirais, pour la France à ce moment-là. Et, tu as ce Toussaint Louverture qui est un esclave affranchi. Ça veut dire qu'il a été esclave, mais de par le maître qui l'a eu, tout ça, c'est un esclave qui est éduqué, très éduqué, en fait, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, qui a sa liberté, puis qui administre des terres agricoles pour son ancien maître, mais à titre d'homme payé, comme libre. Exactement. Il n'apparaît pas au début, en 1791, là, dans les rébellions. On va le voir arriver quelques années plus tard, où là, il va commencer à s'illustrer davantage. et de par son éducation. Et on pourrait dire, ce qui ressort quand même chez cet homme-là, c'est son intelligence diplomatique et un peu sournoise aussi. C'est pour ça que tu dis, t'as dit il est controversé, mais d'ailleurs, je me demande pourquoi toi, tu m'as dit qu'il était controversé. Parce que tu m'as dit que tu connaissais rien. Fait que là, tu viens de me dire qu'il est controversé.
Oui, mais non, mais de ce que je sais de lui, c'est que il a comme joué des deux bords. Fait que d'un côté, c'est un ancien esclave qui porte cette cause-là, mais de l'autre côté aussi, il y a des gains, il y a de l'argent en jeu, donc mais j'en sais pas plus que ça, mais je le sais qu'il a peut-être été moins honnête que peut-être ce qu'on a fait de lui.
Il va en fait réaliser que l'indépendance haïtienne est possible. Et là, il va embarquer. Il va se embarquer dans l'arène et il va oser, en fait, créer une armée, littéralement, d'esclaves, d'anciens esclaves, parce que graduellement, avec les pressions, la France va abolir l'esclavage. Hein. C'est lié directement aux révoltes d'Haïti, le fait que la France va abolir l'esclavage. Les pressions sont très, très grandes, mais entre-temps, pendant que ça, c'est en train de se mettre en place, Toussaint Louverture, il va monter une armée, ça va être un général. C'est pour ça que souvent, on a les représentants où il est, vous allez voir, sur un cheval à la Napoléon, c'est pas pour rien.
C'est ça que j'allais dire.
Il va affronter Napoléon. C'est qu'il fait un peu le même genre de représentation que le cheval avec les pattes un peu levées et tout ça, dans son uniforme militaire, mais bien noir sur son cheval. C'est sûr que c'est un type d'emblème qui est correct d'ailleurs, qui moque un peu le fait que la France va perdre face à lui, en partie, pas juste à lui, il y a ça aussi, pas juste à lui, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent avec lui, il peut pas faire ça tout seul. Mais pourquoi c'est lui qu'on retient beaucoup? C'est que non seulement c'est un bon tacticien, là, tu sais, je veux dire, c'est un fin stratège pour les armées, mais c'est surtout un fin d'esprit politique. Et comme tu l'as dit, il va jouer d'un bord puis il va jouer de l'autre. La France, à ce moment-là, a des difficultés diplomatiques, mais en fait coloniales. Même sa guerre de 7 ans est terminée, reste que les Espagnols et les Anglais veulent de ses possessions. Tout le monde en veut toujours plus, en fait, pour avoir plus de territoire, plus de ressources, etc. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il va, pour faire peur aux Français, il va commencer à s'associer un peu aux Espagnols, qui vont lui fournir aussi des troupes venant de Santo Domingo, donc la République dominicaine. Là, les Français vont paniquer. Et c'est un peu avec ces pressions-là que la France dit, OK, il va falloir abolir l'esclavage, sinon on a vraiment un problème. Et entre-temps, pour pas que les Français aient trop Toussaint Louverture, pour qu'ils puissent négocier l'indépendance d'Haïti, il va leur montrer aux Français qu'il peut chasser les Anglais, en fait, de tout ce qui est proche des côtes de la future République dominicaine et d'Haïti, mais en même temps, il va sceller des alliances avec les Anglais pour avoir du soutien militaire. À un moment donné, il va même aller chercher de l'appui aux États-Unis. C'est là, en fait, que sont ses appuis les plus forts. Et ça, c'est beaucoup moins connu à l'époque des Français, des troupes européennes, mais il établit des contacts commerciaux assez importants avec les États-Unis et qui vont lui fournir du matériel, des armes, bien des choses,
des ressources
par en dessous. Puis Haïti fournit du sucre et d'autres choses qui coûteraient très cher s'ils passaient par les Anglais, surtout après l'indépendance américaine. Disons qu'il y a des ressources qui coûtent plus cher.
Ils sont pas en très bon terme,
c'est
on
ça.
Va dire
fait,
ça de même.
Sur toute cette plateforme politique-là qui est vraiment une poudrière. Fait que c'est pour ça que, je veux dire, tout dépendant de quel point de vue on se trouve, il y a des gens qui vont dire, c'est peut-être un héros pour les Haïtiens, mais c'est un maudit trou de cul au niveau des... des négociations, il nous a vraiment fait tuer. Et voilà. Et comme on n'avait pas prévu qu'une armée non entraînée tourne en déroute comme ça, à un moment donné, l'armée française, c'est que l'armée française n'a pas vu l'ampleur de la crise, puis ils n'ont pas été assez vite aussi, un peu de ça. On a négligé, en fait, le pouvoir de la révolte et l'envie de l'indépendance, et on s'est pas assez bien préparé, il y a un peu de ça. Donc, Napoléon va arriver en 1802, et là, Toussaint, lui, va être fait prisonnier. Là. Toussaint ne voit pas l'indépendance d'Haïti, en fait. qui va arriver 2 ans plus tard, en 1804. Il ne la vit pas, Toussaint Louverture.
Il se fait exécuter?
Non, mais presque. Et ça, c'est dans les débats autour de son histoire, c'est là où je dirais que la recherche historiographique, les analyses sont les points de vue au gré des décennies, au gré des siècles même, est peut-être la plus intéressante. C'est que Toussaint Louverture est fait prisonnier, il est envoyé à Fort-de-Joux en France, il va y rester à peu près 1 an, puis il va mourir de maladie en 1803, et l'indépendance officielle d'Haïti va être proclamée en 1804. Mais sauf que, inquiète-toi pas que Napoléon va dire « Oh oui, soyez indépendants, mais vous allez nous rembourser tout ce qu'on a investi sur votre île, par exemple. » Fait que, tu sais, l'espèce de dette haïtienne commence déjà avec ça, là. Ils partent d'assez bas, puis comme les Européens, la plupart, du moins, vont quitter, tu te retrouves avec des esclaves qui n'ont pas tous le même niveau de compréhension du monde, de comment ça fonctionne, le même degré d'éducation, comment gérer un territoire indépendant. C'est beau les idées des Lumières, mais quand vient le temps d'appliquer le pouvoir, c'est vrai, dans n'importe quelle histoire d'indépendance de territoire, c'est compliqué. Ben voilà, là, tu sais, la suite de l'histoire d'Haïti. Et au niveau politique et des violences et tout ça, de la guerre, des conflits, parce que c'est comme si on donnait à tout le monde, OK, voici le territoire, faites-en ce que vous voulez, mais il n'y a pas...
Personne.
Tout le monde voudrait être leader, tout le monde a des idées de ce que devrait être cette ville-là, puis tu sais, ça crée quand même pas mal de... Puis il y a des dettes envers la France qui doivent être quand même remboursées, mais là, il faut continuer à gérer les terres, puis bien le faire, c'est pas si facile que ça. Il y a tout ça. Toussaint, lui... se retrouve en prison en France et on le sait très, comme tu l'as dit, c'est ça, il a tellement été fin renard dans ses négociations que les Français ont très peur de lui et on a tout le temps peur qu'il mente pour essayer de s'en sortir, puis sortir de prison. Donc, on sait que plusieurs mois avant sa mort, déjà, il se plaignait de douleurs abdominales, il vomissait souvent, il n'allait pas bien. On s'entend qu'il n'était pas super bien nourri. En fait, aujourd'hui, en 2023, il y a quand même une tendance historiographique, donc des historiens qui ont une ligne de pensée comme quoi on l'a littéralement condamné à mort en le laissant en le nourrissant mal, en lui donnant pas assez de chaleur, puis qu'il meurt de maladie, mais c'était comme une exécution non affirmée. On pouvait pas dire on a exécuté Toussaint Louverture, ça aurait mis le feu aux poudres à Haïti et ailleurs, mais mourir de maladie en prison, ça c'était plus acceptable. Et ça qu'on voit ce racisme qui est encore là, là je veux dire, il disparaît pas parce qu'on a aboli l'esclavage ou qu'Haïti a eu son indépendance, mais c'est geôlier, c'est un noir en voulant dire pourquoi j'en prendrais soin et tout ça. Donc, dans les archives qu'on a, d'ailleurs, de son serviteur qu'il a avec lui en prison, et il me semble que ça s'appelle quelque chose comme Mars Plaisir, ou les noms assez étonnants des...
Wow, on dirait un nom de danseur au 281, tu sais, mesdames, faites du bruit pour Mars Plaisir!
Genre, c'est ça, tu sais, il semble qu'il avait été malade depuis déjà un bon bout de temps, mais on pensait qu'il mentait pour essayer de sortir de prison, d'aller se faire soigner, puis qu'il puisse se sauver, donc on n'a jamais pris ça au sérieux, puis ça n'a jamais été rapporté aux plus hautes instances, puis un matin, il me semble que c'est en avril, là, il bouge plus. Puis là, il y a un médecin qui arrive. Il n'y a jamais eu de médecin. Là, il y a un médecin qui arrive qui dit, il est mort.
et voilà,
tu sais. Donc, aujourd'hui, on voit ça comme une vengeance de la France en disant, on ne l'a pas exécuté. Il est mort naturellement en prison. Ouais, vous êtes arrangé pour qu'ils prennent...
Ben, c'est ça. Naturellement, dans le froid, pas de nourriture, pas rien.
Pas de médecin. Que... D'habitude, un prisonnier malade, il y a un médecin qui va au moins aller le voir, mais on disait que, ah non, il fait ça parce qu'il veut sortir de prison, fait qu'on n'en parlera pas. Fait qu'on voit aussi que ces geôliers, il y avait vraiment un grand racisme avec lui, puis une haine envers lui aussi qui peut être responsable de sa mort. Donc, il meurt en 1803. Haïti va avoir son indépendance officielle en 1804, donc il ne la voit pas, cette indépendance-là. Mais parce qu'il a été fin renard, de par son intelligence, de son éloquence, quand il parlait et s'exprimait aussi, il est devenu un peu le porte-étendard, l'emblème de cette révolution-là, mais c'est pas lui qui l'a parti. Et il n'est pas là quand elle se termine.
Il a comme été là juste au milieu.
Oui, mais il y a un gros milieu.
Quand même.
Il a fait quelque chose de remarquable, puis je veux dire, avoir... jouer comme ça avec les grandes puissances, fallait le vouloir. Il cultivait aussi un petit peu son mystère. Le culte du héros, il le voulait aussi. Faut dire que, tu sais, il voulait qu'on se rappelle de lui, il s'est arrangé pour. Il y avait des raconteurs déjà de son vivant, tu sais, un petit peu à Alexandre le Grand, là, tu sais, on fait japper le chien comme quoi il est déjà exceptionnel pour un peu faire peur. Et tu sais, il y avait une propagande positive à son égard qui circulait déjà, là, de son vivant, puis c'était un peu volontaire aussi. Le culte du héros pour dire, Haïti, ce qui va devenir Haïti, un leader, faites attention. Et justement, quand on a l'indépendance, ben là, Saint-Domingue, ce nom-là saute. On ne veut pas de nom colonial. On veut revenir à un nom d'origine de cette île-là, qui était le nom Arawak à Haïti, qui redevient le nom de l'île. Et là, après ça, part une histoire d'essayer de gérer un pays indépendant. C'est la première fois, en fait, qu'un territoire d'esclaves obtient son indépendance, ou même un territoire colonial, parce qu'après ça, c'est l'Amérique du Sud qui va suivre. Mais Haïti, c'est la première au 19e siècle à dire allez les colons, allez-vous-en, nous autres on est indépendants. Après ça, on va aller du côté de l'Amérique du Sud, puis ça va là ça va commencer à péter de partout, mais c'est vraiment la première en fait à le faire. Fait que, ils peuvent être fiers de ça, mais c'est sûr qu'on les a laissés avec des dettes, on les a laissés dans une situation où arriver à régir, à créer un système politique qui se tient, alors que même la France a de la difficulté à le faire. Napoléon, ce sacré empereur, tu sais, je veux dire, la révolution ça prend quelques républiques avant d'arriver à un système qui marche,
quelques têtes qui tombent, quelques républiques
il y a pas mal de choses. Ben, tu sais, imagine un territoire comme Haïti où, là, on redonne aux esclaves leur liberté, mais gérez-vous, mais payez-nous vos dettes. Tu sais, c'est un lourd fardeau.
C'est de les écraser encore, là. C'est comme le dernier coup pour être sûr de leur laisser aucune chance.
Un petit peu. Il y a vraiment de ça. Puis là, on tombe après ça dans une histoire qui, honnêtement, sort de mes compétences au niveau de la politique haïtienne. C'est terriblement compliqué et je ne me sens pas du tout solide pour entrer dans ce volet-là. C'est très complexe et surtout, c'est qu'il y a toujours un danger d'arriver avec des points de vue de gens qui n'ont pas vécu ça de l'intérieur. C'est vraiment très, très sensible rendu à partir de ce moment-là.
Mais tu avais mentionné que Toussaint Louverture n'a pas fait ça tout seul. Est-ce qu'on sait un peu qui était autour de lui?
Oui, il avait des généraux et tout ça. Là, les noms vont m'échapper, mais vous pouvez vraiment aller lire parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'autres hommes, pas des femmes, mais ici, c'est vraiment des hommes, je suis désolée, qui vont l'appuyer. Ils ne pouvaient pas faire ça tout seul. Fait que, il y en a quand même quelques-uns là, qui ont commencé des rébellions avant lui ou qui vont s'allier avec lui et qui vont travailler avec lui. Parce que quand lui fait des coups bas diplomatiques, il y a du monde qui continue les rébellions contre les propriétaires terriens et qui tiennent le fort. Donc, il y a beaucoup de monde en fait dans cette histoire-là, mais comme c'est pas une, tu sais, je veux dire, l'histoire va retenir celui qui a fait les coups de cochon. mais qui les a bien faits, là. Il a vraiment été astucieux, en fait. Et peut-être celui qui a laissé le plus de traces volontairement, il savait comment laisser sa marque, ben c'est sûr que c'est lui que l'histoire va retenir le plus. Mais il y a plein d'autres hommes, en fait, qui vont avoir quand même un bon degré d'éducation aussi, qui étaient affranchis comme lui, qui vont l'appuyer, puis qui vont travailler avec lui, puis qui vont gérer des armées, puis qui vont réussir quand même à faire suer la France royalement, là. Tu sais, c'est quand même assez exceptionnel que... des esclaves et anciens esclaves se forment une armée sans expérience militaire puis quand même tournent en déroute Napoléon. Et c'est quand même...
Dans ta face, Napoléon! Tant mieux!
Il y en a eu dans sa face, Napoléon, quand même. Il n'y a pas juste eu des belles victoires, Napoléon. J'ai hâte d'ailleurs de voir ce film qui s'en
vient. Le film, et moi aussi, on devrait aller au cinéma ensemble pour que tu puisses me chuchoter tout le long.
C'est pas vrai! C'est pas vrai! Moi, quand c'est je le vois, vrai. Je vois déjà la bande-annonce où il tire à coups de canon ses pyramides. Je suis comme, come on!
Bon, garde ça, ça sera un épisode spécial.
J'ai eu un coup de cœur dans la bande-annonce au même moment. Les coups de canon, j'ai ri. La scène où on voit le sphinx devant les pyramides, ils ont pris un tableau, en fait, de Napoléon quand le sphinx est encore ensablé, puis ils l'ont comme, j'imagine, digitalisé pour qu'il ait l'air de ce que, comme ça à l'écran. Ça, j'avoue, j'ai eu un petit frisson quand j'ai vu ça. Je suis OK, je sais quel tableau. Oh, là, c'était beau. Fait que voilà, c'était ma parenthèse Napoléon.
Ben écoute, et là, dis-moi, pour closer un peu sur Haïti et Toussaint Louverture, justement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Toussaint Louverture? Est-ce qu'il est encore célébré ou il est un peu tombé dans l'oubli?
Non, il est un symbole d'histoire haïtienne, c'est pour ça qu'on a un parc à son nom à Montréal. On a une grosse communauté haïtienne quand même à Montréal. Alors, comment des fois aller chercher des symboles haïtiens que les gens connaissent aussi? Ben c'est souvent le nom qui va ressortir. Ça pourrait être d'autres noms. C'est juste que les gens sont comme « c'est qui? » C'est un peu ça la joute de l'histoire à un moment donné. C'est quand il y en a un qui devient le héros que tout le monde connaît, ben tu sais, si on veut honorer un peu l'histoire d'un pays, c'est là qu'on va pour que les gens se disent « ah oui, j'ai une idée de c'est qui? » Ou du moins, c'est Google, ils vont trouver de l'information. Puis, il y a des noms comme ça qui malheureusement passent à l'oubli ou que même si on ils sont un peu connus, si on les utilise, ben il n'y a personne C'est ça. C'est un peu la même chose. Il devient quand même le symbole de comment, par l'éducation, mais aussi comment, quand on est rusé et intelligent, on peut accomplir de grandes choses et qu'on peut surtout tourner en bourrique les plus grandes puissances du monde. Je dirais que c'est surtout ça qu'on doit retenir. C'est ça. Il était astucieux. J'oserais même dire baveux.
Ben merci, Evelyne, pour ce tour d'horizon de l'histoire d'Haïti.
J'espère que ceux et celles qui étaient très nombreux qui voulaient me voir en parler, voilà. Si vous voulez lire plus, justement, sur les débats autour de sa mort, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons articles qui ont été publiés dans les dernières années, étonnamment plus en anglais. Parce que c'est sûr que ça met pas les Français dans ce
livre. Oui, c'est ça, les Français doivent être comme
nous. Mais il y en a, là, tu sais, je veux dire, on est rendu en 2023, tu sais, je veux dire, des mea culpa, on a les enfants amplement, là, je veux dire, ça. Mais c'est sûr que ici, c'est beaucoup l'historiographie anglophone qui, à un moment donné, a dit, attendez une minute, là. La mort de Toussaint est en prison, là, puis qui ont réinvestigué ça. C'est très anglo-saxon, je dirais, comme démarche, là, mais vraiment, c'est assez facile là, de pouvoir aller lire là-dessus, si jamais ça vous intéresse.
Mais merci beaucoup, Evelyne. Alors maintenant, nous allons passer à notre minute d'histoire sexy. Ce petit segment est une présentation, évidemment, des Ross et compagnie. Et je vous rappelle, comme toujours, dites-le en même temps que moi, le code HISTOIRE15 si vous allez faire des achats sur le site des Ross. Écoute, aujourd'hui, Evelyne, on va parler de littérature érotique qui date du 13e siècle au Japon.
Oui. En fait... 13e siècle pour une version qui s'est généralisée 11e pour les origines probablement de l'histoire. Fait qu'on est dans le Japon féodal, ouais.
Je fais comme si je savais c'était quoi le Japon féodal, pas tant, je te dirais.
C'est.
Mais OK.
Époque des samouraïs, je vais te réduire ça à la plus simple expression. Et des daimyos, mais.
As-tu le moment où on plug Shogun?
Oui, mais même si c'est plus tard, on peut plugger Shogun encore, voilà.
Donc, de quoi on parle aujourd'hui?
On parle d'un roman romantique et érotique, écrit au 11e siècle, mais qui va être beaucoup popularisé à partir du 13e, qui va même être traduit en Chine et qui va devenir un classique en Chine aussi. Et il a cette particularité d'avoir été écrit par une femme. Alors, ça, c'est intéressant. Ça s'appelle « Le conte de Genji » et c'est écrit par... Là, je veux dire son nom comme il faut, j'espère pas me... C'est toujours un peu stressant quand il faut dire un nom en japonais, mais Murasaki Shikibu. En théorie, je l'ai dit comme il faut.
Très bien dit. Moi, je suis très impressionnée.
Merci. Ah, mais... J'ai pas le temps de raconter tout ça, mais j'ai pratiqué beaucoup mon japonais sans le parler quand j'étais plus jeune, parce que je faisais des voix pour un ami, pour des jeux vidéo ou des choses comme ça. Fait que, voilà. J'écoutais beaucoup, beaucoup d'animés japonais quand j'étais jeune, à l'époque des VHS.
Oula! Dans le bon vieux temps!
Voilà, fait que m'amuser à prononcer du japonais, je le faisais juste, c'était un hobby, là, j'apprends le mandarin, pas le japonais, mais c'est pas grave. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est un conte, hein? Fait que c'est vraiment un roman, c'est considéré comme un classique de la littérature et comme je te disais, à partir même du 13e siècle, ça va commencer à se diffuser en Asie, surtout en Chine, ça va devenir super populaire et c'est sûr que quand ça a été écrit 11e, 12e siècle, tu sais, les dates sont pas évidentes, là, je te dirais, au niveau de l'écriture. C'est écrit à la main, là, tu sais, faut imaginer, là, tu sais, que c'est écrit à la main sur
mais
des rouleaux.
Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça raconte?
Ben, ça raconte, en fait, une histoire un peu romantique. On est à une époque, bon, le Japon féodal, où c'est des clans, en fait, qui gèrent le Japon. Et cette dame-là va parler un peu d'une histoire d'une femme de l'aristocratie qui sert comme dame de compagnie la femme du chef de clan. T'sais, si je te place un petit peu là-dedans. C'est son aventure à elle qu'on suit. Et on voit, tu sais, il y a du drame là-dedans. Il y a de la politique, il y a plein de choses. Mais le cœur du conte, ça reste quand même une histoire romantique où ben tu sais les personnages tombent amoureux. Il y a plus qu'un personnage par contre, tu sais, qui vont tomber amoureux, qui vont on décrit le sentiment amoureux, mais on décrit aussi ben les actes sexuels, tu sais, je veux dire, quand ils ont à s'amuser, ben c'est très agréable, donc ça va être décrit. On n'oublie pas que le Japon a pas la même pudeur par rapport au plaisir sexuel que nous, surtout à ces époques-là. Donc c'est ça, et c'est une femme qui écrit, verbalise le désir et l'acte sexuel aussi dans tout ça. Fait qu'on a comme plein d'aventures, fait qu'on comprend. C'est pour ça que les dates sont un peu compliquées, c'est qu'on a l'impression, oui, c'est elle qui est l'autrice de départ. C'était des chapitres par chapitre, un peu comme Dumas ou Dickens, qui au départ écrivait des feuillets dans des journaux, et ces feuillets-là sont devenus les romans qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu le même principe, t'sais, ça n'a pas été écrit d'un seul bloc, ce qui fait qu'elle a eu le temps de peaufiner son histoire, qu'il y a plein d'autres personnes qui ont récupéré ces contes-là puis qui les ont peaufinés aussi pour devenir le classique que même la Chine va vouloir traduire, parce que c'est des intrigues de cours, c'est comme une série télé en fait, t'sais, c'est des intrigues de cours, c'est des gens qui devraient peut-être pas tomber amoureux qui vont tomber amoureux, mais qui surtout ont décrit donc l'élan, le désir pour le fruit défendu à l'occasion et le plaisir de le faire, de passer à l'acte. Et donc, c'est écrit à l'origine par une femme!
Une femme! De toutes ces histoires qu'on a racontées, où est-ce que c'est toujours les gars qui racontent?
Là, c'est pas le Marquis de Sade, exactement. C'est une femme. Mais comme je te disais, c'est une femme, du moins, qui écrit le début de l'histoire. Mais parce que ça a été des feuillets qui ont été ajoutés au fil du temps, il y a d'autres personnes qui vont finir par compléter ce conte-là. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Là, on entre dans un débat dans lequel j'ai aucune compétence.
Fait que Fifty Shades of Grey a rien inventé. Là.
Ouais, mais on n'est pas dans le même... on est dans l'érotisme, on n'est pas dans le sadomasochisme, t'sais, on est moins dans cet univers-là, on est plus dans le désir, et une fois qu'on peut aller jusqu'au bout de ses désirs, ben, c'est l'extase, c'est un peu ça l'idée.
Redis-nous le titre si jamais il y en a qui veulent aller emprunter ça à la bibliothèque.
Le conte de Genji. Ça se peut que vous ayez les versions d'aujourd'hui qui ont été traduites, ça se peut que vous ayez eu la version remaniée chinoise, par contre, retraduite après ça en anglais. C'est un peu compliqué, là, mais ça fait partie quand même des classiques de la littérature asiatique en général.
Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances mondiales, j'ai envie de dire. On s'est beaucoup promené aujourd'hui.
Écoute, je fais un livre sur l'histoire du monde depuis le 15e siècle, là, fait que présentement, j'ai comme pas le choix de m'intéresser à l'ensemble de la planète.
Ben, merci de nous avoir éduqués et merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!